Bienvenue à la French Collection, épisode 23.
Bonjour, bienvenue dans un épisode spécial de la French Connection. Cette fois-ci, nous allons parler spécifiquement du RGPD, qui est une loi européenne qui va avoir des effets mondiaux sur la protection de la vie privée et la protection des informations des gens. Cette semaine, on a Damien, qui est dans le fond notre spécialiste en la matière, qui va nous entretenir sur ce sujet.
Salut tout le monde.
Alors Damien, qu'est-ce que le RGPD?
Alors le RGPD, on va faire simple. Déjà, la traduction française, c'est Règlement Général de la Protection des Données. En anglais, le GDPR, General Data Protection Regulation. Alors qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que depuis plusieurs années, d'abord en France, ça a débuté en 1978, le 6 janvier 1978 exactement, avec une loi qui est dite « Informatique et liberté ». L'idée à l'époque, hein, vous doutez bien que les ordinateurs n'avaient strictement pas l'allure des machines qu'on a aujourd'hui. L'idée était de protéger les données des personnes qui passaient par l'informatique. Au fur et à mesure, tout ça a évolué et cette loi, elle indiquait déjà, hein, et je vous parle de ça donc de 1978, que toute personne dispose du droit de décider de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant. En gros, déjà à l'époque, quand nos parents, nos grands-parents donnaient leurs informations à un magasin ou alors à l'informatique de l'époque, ils pouvaient déjà demander ce qui était fait de ces données, éventuellement les modifier, voire les détruire. De fil en aiguille, ça vous le savez, hein, depuis 1978, l'informatique a largement évolué. Aujourd'hui, l'informatique, c'est plus qu'un clavier, hein, c'est les internets, c'est les téléphones, c'est les cartes de clients, c'est les cartes qui nous ont proposées par les banques, par les magasins, etc., etc. 27 ans plus tard, le 6 août 2005, tentative d'harmoniser ces lois européennes, parce que chaque pays avait sa petite loi informatique et des libertés. Alors l'idée de le 6 août 2005, c'était bien de transposer une directive européenne qui avait été signée le 24 août 1995, et l'idée c'était de modifier cette loi, c'était de rajouter dans les lois informatiques et libertés de quoi les harmoniser. D'abord d'harmoniser les déclarations entre les secteurs privés et secteurs publics. C'était aussi l'ajout de la fonction de correspondant informatique et liberté, on en parlera tout à l'heure. Et puis aussi, très important, l'élargissement des pouvoirs de la CNIL. Donc là, voilà, c'est un peu la genèse de tout ça. Et le Règlement Général de Protection des Données, donc le RGPD, eh bien, a été décidé le 25 janvier 2012. Alors, c'est une réforme en profondeur, hein, des règles en matière de protection des données des utilisateurs qui a été décidée. Et donc, le 15 décembre 2015, eh bien, il a été décidé que tous les pays européens devaient avoir ce RGPD, hein, cette harmonisation. Et donc, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne ont donc approuvé le Règlement général sur la protection des données. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de se dire que ça y est, en tout cas en France, le 25 mai 2018, le RGPD va rentrer en scène. Et là, eh bien, que ce soit l'utilisateur et les entreprises vont devoir la connaître, peut-être pas sur le bout des doigts, mais la prendre très au sérieux.
Oui, effectivement, parce que ça a une portée très importante. Ça vient modifier beaucoup de perceptions par rapport à la protection des informations. Puis surtout comme nous, comme Nord-Américains, dans lequel on vit dans un bassin où cette protection-là est moins apparente ou beaucoup moins forte, ça va avoir un choc assez important, surtout pour les compagnies américaines qui ont l'habitude de récolter beaucoup d'informations.
Ah ben c'est simple, hein, le RGPD va toucher le français, l'européen et toute la planète. Alors d'abord, parmi les éléments clés des dispositions du règlement, qui ne sont pas systématiquement mises en œuvre dans l'entreprise, aujourd'hui en tout cas, on retrouve quoi avec le RGPD? La nomination d'un délégué à la protection des données, ce qu'on appellera le DPD. La responsabilité sur les données et traitements étendue aussi aux sous-traitants et aussi au transfert transfrontalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je prends l'exemple de ce qui s'est passé, là, il y a quelques jours en France, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, a condamné une société à 100 000 euros d'amende. Pourquoi? Des données clients, plus de 900 000, ont fuité sur Internet. Mais la finesse, c'est que ce n'est pas directement l'entreprise qui a fuité, mais un de ses partenaires, un de ses sous-traitants. Son logiciel était mal configuré, n'était pas sécurisé, il était donc accessible via un simple lien aux données de plus de 900 000, en tout cas, fiches clients. Alors là, déjà, c'est super important, c'est de se dire qu'il n'y a pas que l'entreprise qui va être responsable, il y a aussi les sous-traitants. Après, il y a aussi un niveau attendue, c'est celle de la protection des données qui sera accrue, donc ce qu'on appelle les dispositifs de sécurité, chiffrement, cloisonnage. Ça veut dire que maintenant, les entreprises ont plutôt intérêt à regarder très sérieusement du côté du chiffrement. Il y a aussi la notification obligatoire des incidents. Alors d'abord dans les 24 heures à la CNIL et ensuite dans les 72 heures par courrier à destination des clients qui ont été impactés. Ça veut dire que j'ai une entreprise qui est au Canada, par exemple, au Québec, allez, et je travaille avec une entreprise française dans le Nord, à Lille, hein, chez moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes données clients de moi, le français, sont envoyées à mon partenaire pour le travail, pour l'étude, etc. Sauf que ce partenaire les perd, on lui pirate, il les modifie sans autorisation, quelqu'un les lit sans même les copier. Eh bien, on tombe dans le RGPD, même si je suis basé à Québec, même si je suis basé à plusieurs milliers de kilomètres de la France et de l'Europe. Voilà, il va falloir alerter. Et ça, c'est plutôt intéressant et important parce que cette forme de communication manquait. Les Américains le font, hein, les États américains. Et là, on prend les dernières fuites dont un grand laboratoire de radiologie américain a été obligé d'alerter et non seulement la justice, les clients et la presse. Et dedans, il y a des Français. Ils sont obligés et ils seront obligés d'alerter à partir du 25 mai 2018 toutes les personnes qui sont concernées par cette fuite. Et ensuite, il y a aussi un renforcement du droit des personnes sur les données les concernant, comme par exemple déjà la loi informatique et liberté avec la CNIL en France. Je pouvais déjà demander à l'entreprise « qu'est-ce que vous avez sur moi ? Qu'est-ce que vous en faites ?» Et bien là, aujourd'hui, il y a une nouvelle couche. Je veux y accéder, je veux savoir où vous les sauvegardez, combien de temps vous les gardez. Et très intéressant aussi, c'est que les enfants de moins de 16 ans, on ne pourra plus collecter leurs informations sans l'autorisation concrète et efficace des parents. Et ça, c'est pas mal.
Qu'est-ce que concrète et efficace dans ce cas-ci?
Bah pour moi, concret et efficace, ça veut dire quoi? C'est que aujourd'hui, on prend des sites internet Disney, hein, pour pas le citer, mais on peut prendre aussi des restaurants comme McDonald's, on peut prendre aussi, en tout cas, tout ce qui va attirer des enfants, des mineurs, hein, parce que les sites sont sympas, parce que il y a moyen de regarder, je sais pas, moi, des vidéos, etc., etc. Et il peut y avoir une demande de ton nom, ton prénom, ton mail, ton âge, ta date de naissance, etc., etc. Eh bien, tout ceci ne pourra plus être fait sans l'accord des parents. Il faudra, par exemple, quand mes enfants vont dans un magasin et qu'on me propose, en tout cas, on leur propose de leur créer une carte de réduction, par exemple, les données ne pourront pas être collectées sans que les parents donnent leur accord, ils signent et surtout ils soient présents.
Ah, c'est tout un changement. En tant que parent, je trouve que c'est une approche qui est très, très, très intéressante. C'est la façon qu'on va, dès que les entreprises vont appliquer ça, qui va être peut-être un peu un casse-tête différent.
Ah ben le casse-tête, il va être clairement là, hein, parce qu'on prend par exemple chez nous en France, des sites faisant la promotion de l'alcool sont interdits aux mineurs. Donc on peut prendre aussi des sites de jeux, on peut prendre des sites aussi interdits aux moins de 18 ans par exemple. Et je ne parle pas que de sites pornographiques qui sont, il faut aussi l'avouer, malheureusement particulièrement visités par les plus jeunes. Mais ça c'est l'information importante, c'est que on sait qu'ils sont capables de modifier la date. Par exemple, quand je vais sur certains jeux vidéo où on me demande si je suis majeur parce que c'est peut-être des jeux violents ou je ne sais trop quoi, il est très facile de donner n'importe quel âge, de donner n'importe quelle date de naissance, etc., etc. Je suis impatient de voir comment vont faire les sites internet qui vont souhaiter collecter des données qui pour elles sont marketing, donc ont un coût, et en tout cas doivent normalement leur rapporter de l'argent, hein, il faut pas se voiler la face, et peut-être, et espérons-le, un confort aussi pour l'utilisateur. Ça va être intéressant de voir comment ils vont faire pour eh bien collecter des informations qu'ils vont trouver utiles avec l'autorisation des parents. Est-ce que moi, parent, je vais être obligé de signer un papier électronique en disant « oui, oui, je suis bien papa, je suis bien maman, voici les données de mes enfants ». Ça va être intéressant à suivre.
Très intéressant, oui, puis surtout quand on constate que le modèle d'affaires de, entre autres, Google et Facebook est basé exclusivement sur la revente d'informations qui viennent chercher dans nos profils avec une autorisation plus ou moins claire.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, regarde, si on prend Facebook, il faut savoir que c'est interdit aux moins de 13 ans. On a énormément de gamins. Moi, je fais pas mal de conférences dans les écoles. Je fais des, voilà, bénévolement, je vais dans les écoles pour qu'on parle avec les jeunes un petit peu de leur numérique et puis comment bien l'utiliser, comment bien se créer une identité, une réputation numérique qui leur servira plus tard pour trouver du travail, par exemple. Ça va être intéressant. C'est que donc, du coup, le jeune qui va vouloir s'inscrire sur Facebook, qui a donc 13 ans, 14 ans, 15 ans, devra le faire avec obligatoirement l'autorisation des parents. parce que la loi va l'imposer. Je vois très mal des enfants dire à leurs parents « Tu peux venir à côté de moi pour qu'on s'ouvre un compte ?» Sauf que Facebook pourra dire ensuite « Oui, mais attendez, moi je ferme le compte ou je ne suis pas responsable. » C'est les parents qui n'étaient pas présents lors de l'ouverture. Nous, on a tout fait pour que les données qu'on a collectées pour ouvrir le compte, par exemple, soient totalement sécurisées et respectueux de la loi. Je suis impatient de voir comment ça va se faire. Ça va être bizarre à suivre.
Oui, tout à fait. Puis est-ce que les entreprises ont une obligation de résultats ou ils ont une obligation d'effort?
Bonne question. Ben, là, dans tous les cas, ils auront obligation de ne pas collecter de données de mineurs, en tout cas de moins de 16 ans, sans l'approbation et l'accord des parents. Comment va faire, par exemple, quelqu'un qui va vouloir s'inscrire sur Twitter et qui est mineur, qui a moins de 16 ans, sur Facebook ou sur tout autre site internet visant des mômes, quoi, des enfants. Ça va être je suis impatient de voir comment ça va fonctionner et puis surtout comment tout ça va s'harmoniser.
Ah, ça va être un vrai chaos. Puis de toute façon, les enfants sont déjà habitués de tricher les règles en appliquant les mauvaises dates de naissance. On va se retrouver avec un capharnaüm assez phénoménal sur la façon d'appliquer ces mesures-là. Et
Oui, c'est ça. On verra bien. Ça va être intéressant, en tout cas. C'est pour ça que c'est intéressant que le RGPD vise, bien sûr, les entreprises. Ce qui est dommage, c'est que je trouve que les particuliers, ou en tout cas... Pardon, il fait froid aussi ici. Achoum. Toujours est-il qu'il est intéressant de voir que les entreprises commencent véritablement à s'en intéresser. Dans tous les cas, elles n'auront pas le choix d'être au taquet. Hein. Ça veut dire d'être vraiment prêtes à partir du 25 mai 2018. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir à quel niveau le particulier va vraiment s'en intéresser. Je trouve que c'est tellement technique, que c'est tellement paperasse, hein, ça veut dire administratif, que pour le moment, très peu de gens que je peux croiser de particuliers, donc l'utilisateur lambda, maman qui va en magasin et qui se récupère une carte de réduction en laissant ses coordonnées, les enfants, les ados, les adultes, sont très peu concernés, se sentent très peu concernés. Alors que des fuites de données, on en parlera si tu veux, il n'y en a jamais eu autant. Je suis impressionné par le nombre de fuites de données qu'on peut croiser juste en tapant quelques dorks, hein, quelques mots-clés dans Google.
Oui, ça c'est parce que, de toute façon, c'est un aspect fascinant à quel point les gens sont prêts à échanger des informations privées contre des points bonus ou tout autre petit élément de pseudo-gratuité, là.
C'est ça, c'est que les gens, ils ont oublié, c'est que si c'est gratuit, c'est eux le produit. Et le problème, ouais, c'est avec ces fuites, ces bases de données qui sont dans les mains de marketeurs ou en tout cas de sociétés, aujourd'hui, quand on leur donne une information, hein, il faut vraiment se dire, on prend le dessin animé, hein, c'est le livre de la jungle, j'aime bien, c'est Robin des Bois de Disney, que je reprends toujours parce que je trouve que l'exemple est pas mal, c'est le serpent qui vous regarde et qui dit « Aie confiance ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on donne des informations et on espère qu'elles tomberont pas dans de mauvaises mains.
Oui, effectivement, mais de toute façon, ce que tu mentionnais précédemment, c'est que les entreprises n'ont pas montré la capacité de protéger adéquatement l'information avec une amplification, une augmentation démesurée des fuites de données. Là.
Ah, puis je suis moins impressionné, hein, c'est qu'on sait qu'il y a des budgets, en tout cas dans les grandes entreprises, où ça réfléchit à leur DPO, ça réfléchit à toutes les structures à mettre en place. Mais à côté de ça, j'ai aussi des grandes sociétés qui se sont dit « Oh, c'est pas bien dramatique, c'est pas bien grave ». Sauf que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que toute personne qui sera attrapée la main dans le pot de miel, hein, ou le pot de confiture, qui n'aura pas protégé correctement, qui n'aura pas mis tout en place pour ne pas tomber sous le coup du RGPD, eh bien, il risque quoi? Il risque de 2 à 4% de son chiffre d'affaires mondial, je ne sais pas si tu imagines, et plusieurs dizaines millions d'euros d'amende. Je pense que ça va commencer à faire réfléchir des gens, aussi puissant soit-il. Parce que quand ça va tomber, il y aura cette amende, il faut pas se leurrer. Les class action et les internautes qui auront été pris dans des fuites, des erreurs, des piratages, vont déposer plainte. Il faudra pas se leurrer. Moi, j'ai déjà des avocats qui m'ont contacté en me disant, est-ce qu'il y a moyen de nous dire quelles sont les entreprises ou les fuites que vous allez avoir? Parce que eux, c'est obligatoirement quelque chose d'intéressant. Il va falloir faire bouger ces lignes. J'ai de la chance. Bah, il y a du business. Là, je suis content. Pour le moment, il n'y a aucun avocat français à ce niveau de malveillance. J'ai eu d'autres pays européens qui n'ont pas hésité, eux, à venir clairement en disant, bah voilà, on sait que vous avez telle information, telle donnée, etc. Si vous souhaitez, on peut en discuter pécuniairement, financièrement. Je trouve ça totalement déplorable, hein. Je suis très clair avec vous. Mais, bon, Zataz a aidé, hein, mon blog a aidé plus de 60 000 entreprises françaises qui fuitaient. Mais à mon petit niveau, alors imagine à des niveaux dits professionnels de pirates, sachant que je connais et j'ai déjà entendu des pirates, en tout cas des escrocs et des professionnels du chantage, qui se préparaient des petites failles dans des entreprises à droite à gauche, qui vont permettre la fuite de données, et ensuite ils vont contacter en disant « Bonjour, voilà, on vous explique, on sait que vous avez des fuites de données chez vous, si vous ne souhaitez pas qu'on en parle, il va peut-être falloir nous payer maintenant. »
Ouais, ça va changer un peu la dynamique de ce qui va se passer. C'est déplorable, mais en même temps, ça va obliger les grandes entreprises qui sont parfois négligentes d'agir et de protéger adéquatement les ou de mettre les ressources aux bons endroits, d'arrêter juste de se donner bonne conscience puis de mettre des vraies actions et des vrais sous où ça
c'est
compte.
C'est ça. Ouais, clairement. Parce que nous, on a une énorme chance en France. On a la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et des libertés, qui fait un travail phénoménal d'information, de communication, d'éducation. J'avoue qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas au courant et qui n'a pas commencé sérieusement à travailler sur le sujet, elle méritera et l'amende et d'être mise sur la place publique en disant « Regardez comment elles ont traité vos données, vous les clients, vous les internautes. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance à l'avenir ?»
Oui. Alors ça, c'est du contexte français, mais la loi est dans un contexte européen. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui sont faciles à contacter comme ça pour déclarer une fuite si on a une fuite ou c'est un peu à chacun sa façon?
Alors, c'est justement l'intérêt de cette harmonisation, hein, c'est l'élargissement des pouvoirs des CNIL. Et donc, du coup, chaque pays a sa CNIL, chaque pays a son secteur. Les contacter, eh bien, c'est simple, hein, il suffira de taper le site internet correspondant et là, il y aura toutes les communications, toutes les informations possibles pour les joindre. Alors, il y a encore des petites lacunes, hein, c'est qu'il y en a certaines qui demandent de recevoir les informations par fax. On est encore un petit peu dans de petites lacunes, je vais pas les citer pour pas être méchant, mais bon voilà, on voit que lentement ça se met en place, tout le monde n'est pas encore bien au point.
Ah, en tout cas des fax en 2018, c'est encore un élément assez fascinant. J'ai déjà eu d'autres cas qui ça existe encore, mais bon, des fois certains processus prennent plus de temps à se moderniser que d'autres.
C'est ça. Donc bon, on va rien dire, hein. C'est rigolo, mais en tout cas oui. Non, chaque CNIL maintenant aujourd'hui fait de manière à être le plus efficace possible pour commencer à faire réagir et les entreprises et puis aussi les gens qui se sentent lésés, parce que n'oubliez pas que perdre ses données, son nom, son prénom, son mail, son téléphone, son adresse de maison, voire d'autres informations plus sensibles, plus privées, santé, bancaire ou autre, c'est l'identité numérique qui est perdue, mais aussi la réputation numérique qui est perdue. Parce que si vous avez votre numéro de sécurité sociale qui disparaît dans la nature parce que ça a été oublié, perdu, piraté, ça, c'est pas des choses qui peuvent se changer, c'est un numéro qu'on a à vie. Donc la réputation numérique va partir dans quoi? Dans les mains d'un malveillant, de quelqu'un qui va usurper l'internaute qui a été volé, piégé, etc. C'est aussi tout un cheminement qu'il va falloir se mettre en tête, et c'est pour ça que je pense aussi que les internautes, au lieu de se dire c'est long, c'est fatigant et c'est coûteux, c'est aussi de réfléchir à avoir un mail et un mot de passe par secteur qu'on utilise, par boutique. Parce que s'il y en a un qui est perdu, mais ça on n'arrête pas de le dire, si jamais je me fais pirater via la boutique A et que j'utilise le même mail et le même mot de passe, je vais être honnête avec vous, il faut pas pleurer, parce que le même login et le même mot de passe est utilisé ailleurs par des pirates. Ça, je pense aussi que l'éducation doit se faire dans les deux sens. Pas toujours sortir, comme on dit ici, la carotte et le bâton face aux entreprises. Je pense aussi que les utilisateurs, les particuliers, doivent se prendre un petit peu plus au sérieux quand même, hein.
Oui, mais je pense pas que cette loi spécifique va aider les particuliers à se prendre en main, mais au moins les entreprises vont être obligées de déclarer tout. Donc les gens vont probablement être pris sur une avalanche de déclarations et d'informations qui vont finalement peut-être même comprendre à quel point leurs informations circulent librement sur Internet puis déjà depuis trop longtemps.
Bah, si tu veux, là, pour nos auditeurs, prenez un exemple tout simple. Vous allez dans Google, hein, vous prenez google.com.fr, ce que vous voulez, et vous tapez inURL, inURL, donc dans l'URL, deux points, petit espace, point texte, donc tous les fichiers texte dans les URL, et vous mettez arrobase, votre fournisseur d'accès par exemple, ou votre adresse mail, et vous allez voir toutes les bases de données comprenant par exemple votre adresse mail, qui a été sauvegardé quelque part, est perdu. Et c'est assez affligeant de voir le nombre de courriers électroniques, rien que déjà ça, utilisés par des entreprises, petites ou grandes, et puis qui ont été oubliés, perdus, piratés, volés, modifiés. Et puis après, on s'étonne qu'on est noyé par les spams.
Ah non, ça c'est un problème. Mais ça, mais comme toutes les fameuses listes que le monde se réécrivait, puis on avait un catalogue plein de courriels, puis qu'à un moment donné ou l'autre tombait dans les mains de quelqu'un un peu plus scrupuleux. Oui, puis de toute façon, les miennes, j'ai je pas, Scatpan aussi qui permet de voir si l'adresse courriel en question a été impliquée dans une des grandes fuites connues, du moins aux États-Unis en général, mais quand même. C'est fascinant à quel point tous nos adresses courriel sont généralement exposées et brûlées ou...
C'est ça.
Dans les mains de méchants.
C'est ça, puis même, je prends aussi, j'ai croisé là dernièrement une dame très gentille qui était secrétaire dans une entreprise et qui me disait, ben moi, vous savez, les adresses et les informations que j'ai, je les mets sur un petit coin de mon site internet parce que c'est le seul endroit où je peux stocker et les retrouver facilement. C'est plutôt inquiétant, hein. Juste pour info, au Royaume-Uni, là, ça vient de me revenir, c'est la société Carphone Warehouse qui vient d'être condamnée à 400 000 livres, donc ça fait aux alentours de $500 000 d'une pénalité parce que elle avait perdu en août 2015 dans un piratage 2,4 millions de dossiers clients et quelque chose comme 90 000 cartes bancaires et 1000 dossiers d'employés. Donc ça montre que toutes les CNIL aujourd'hui montrent les dents face à des entreprises qui sont pas obligatoirement très regardantes avec les données qu'on leur laisse.
Ça, c'est sûr que les pénalités financières auront un effet très, très dissuasif et disons, éducatif sur les entreprises. Si on compare, disons, par rapport aux lois de divulgation américaines, à première vue, moi, il me semble que celle, la RGPD est beaucoup plus sévère puisqu'elle applique des amendes salées.
Mais de toute façon, l'amende aujourd'hui est quelque chose qui va montrer du doigt une entreprise, mais surtout en interne, hein, parce que les actionnaires ou en tout cas les gens faisant confiance en l'entreprise, voyant de l'argent partir par une amende, ils apprécient pas trop ça. Mais en plus, il y a la communication publique, communication qui ne fait pas du bien, parce que du coup, tout le monde regarde l'entreprise d'un autre œil. Mais aussi, et après, c'est tout le coût parallèle au fait qu'on n'ait pas voulu mettre une ligne budgétaire sur la sécurisation de ces données. J'entends par là que si j'avais réfléchi un petit peu avant à un audit, à des gens, à des hommes, hein, parce qu'on oublie qu'il faut de l'humain derrière tout ça, si on ne réfléchit pas en amont de ce genre de choses, il ne faut pas s'étonner qu'après ça coûte très très cher, parce qu'après il va falloir faire appel aux avocats, à des informaticiens, à des sociétés tiers à qui il va falloir leur demander d'auditer, etc. etc. Je pense que oui, réfléchir en amont, c'est quand même loin d'être négligeable. On réfléchit avant, pas après.
Ça, c'est sûr, mais si on regarde l'exemple américain, ou en tout cas des grandes entreprises américaines qui ont connu des fuites, qui ont été publicisées comme Target, par exemple, ou une panoplie d'autres, comme ça, à terme, on voit que juste la mauvaise publicité n'est pas suffisante pour changer les comportements. Puis les pénalités financières, finalement, sont publiques et par le redressement obligatoire, pas si significatif que ça ou pas suffisamment pour changer des comportements chez leur entreprise père ou d'autres entreprises dans le même secteur. Fait que je me demande si la RGPD à ce moment-là, à l'air une amende supplémentaire avec un bon bâton, va faire suffisamment peur, surtout que c'est en pourcentage du chiffre d'affaires. Fait que c'est proportionnel à la envergure de l'entreprise. Donc, le bâton, dans ce cas-ci, va potentiellement faire suffisamment mal pour que le conseil d'administration dire là, vous avez, qui va exiger aux dirigeants de faire leur travail.
C'est ça, puis ce qui est embêtant, enfin, c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, hein, c'est que ce qui serait bien aussi, c'est que les internautes, les particuliers, les utilisateurs, ceux dont on vole les informations, après tout, hein, on pense laisser notre identité, et ça se retrouve un petit peu n'importe comment, si c'est pas bien maîtrisé, il faudrait aussi qu'eux bougent, eux aussi réagissent. Et je pense qu'en entreprise, que maintenant, ce genre de loi va renforcer aussi les obligations, c'est que ça peut devenir une faute grave pour un employé qui pourrait éventuellement se retrouver à être mis à la porte. Regarde déjà le nombre de techniciens, en tout cas dits responsables sécurité, qui ont été virés chez Uber, par exemple, à la suite des fuites de données, etc., etc. Je pense que quand les employés et les dirigeants vont être aussi eux-mêmes mis sur la sellette, hein, vous avez fait une faute grave, on vous vire. Je pense qu'aussi, là, ça va commencer à faire réfléchir. Mais je pense que l'internaute doit aussi bouger, doit arrêter d'être passif en se disant « Ah bah oui, soit ça n'arrive qu'aux autres » ou « Ah bah oui, ça m'est arrivé, mais c'est pas grave. » Si, à force de penser ça, eh bien voilà, c'est des possibilités qui vont être particulièrement perturbantes.
Ah, ça demeure grave. C'est parce que la plupart des gens ne subissent pas les conséquences des fuites parce que ça n'a pas un effet encore tangible pour les gens, le fait qu'il y ait eu des fuites. Mais l'accélération de ces fuites-là vont finir par avoir des conséquences graves sur un nombre grandissant de gens. Donc, l'internaute en question va finir par ou va connaître des gens dans son entourage qui ont vécu des périodes très difficiles à cause de ça. Puis, de par l'obligation de divulgation, puis là, si chaque individu va recevoir une alerte qui a été affectée par une fuite, si ces fuites-là s'accélèrent, les gens vont commencer à être las de recevoir constamment des alertes, ce qui va avoir des effets de sensibilisation.
Ah ben c'est ça. Et puis, je pense que malheureusement, les gens vont très vite se rendre compte qu'il est peut-être déjà trop tard. Je veux vraiment pas faire mon pessimiste, voilà, hein, je pas la paranoïa, il faut vraiment pas tomber dans ça parce que c'est un super outil l'informatique. Voilà, mais quand on voit le nombre de fuites de données, mais c'est fou. Là, je vais mettre je pense que nos auditeurs retrouveront le lien sur le site, hein, où je vais vous mettre un lien qui correspond à quoi, c'est le département de la santé américaine qui affiche toutes les sociétés et les fuites qui correspondent à un hôpital, à un centre de santé. C'est fou quand on regarde, mais en finalité, ça se compte quand on additionne tout, on est à plusieurs centaines de millions de données. Piratage, vol, port, perte. Quand tu vois qu'une clinique dit à ses patients, je crois qu'on a perdu le disque dur qui contenait 8 ans de vos données. C'est fou.
8 ans. C'est assez, oui, c'est fou. Puis, mais les gens n'en subissent pas encore les conséquences. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de répercussions encore sensées. Mais dire à l'heure actuelle, à moins d'avoir vécu dans une cabane dans le Grand Nord québécois, comme un ermite, on a tous été affectés par une fuite ou une autre.
Mais surtout que les gens, je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter de faire, tu sais, les trois petits singes, celui qui se cache les yeux, qui se cache la bouche et qui se cache les oreilles. Je pense que les gens devraient arrêter de faire ça aussi, parce que beaucoup de personnes que je peux rencontrer dans le cadre de mon travail, dans le cadre de conférences que je donne, etc., ils viennent me voir à la fin, alors que pendant les conférences, je dis « partageons ». Ça nous est tous arrivé, une perte, une fuite, un vol, un piratage. Parlons-en. Les gens ne le font pas, ils ont honte, mais ils viennent après. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte, parce que je pense que chaque exemple, sans rentrer dans les détails, chaque exemple permettra, je pense, de sauver les autres.
Oui, tout à fait. Puis de toute façon, il n'y a pas de raison d'avoir honte, puisqu'on n'est souvent pas responsable du problème en question, puisque c'est un tiers qui n'a pas fait son travail.
C'est ça.
Et à cause de ce manquement-là, il nous a mis dans l'embarras.
C'est tout à fait ça. Donc voilà, en gros, hein, là, en 30 minutes, on a un peu fait le tour de ce fameux règlement général de la protection des données. Ça sera très intéressant à suivre dans les prochains mois, en tout cas après la véritable mise en place. Et je pense que ce sera intéressant qu'on revienne sur le sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les exemples vont tomber avant et après. J'ai bien peur, moi, qu'après, ça soit malheureusement des malveillants qui vont utiliser ça comme espèce de petit levier de chantage. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Hein. Je vais franchement être très clair sur le sujet, ça m'inquiète, ça.
C'est inévitable, de toute façon. Tout, bonne chose, mais malheureusement, l'Internet ne fait que ressortir le plus mauvais de l'humain. Puis, inévitablement, chaque chose va se transformer négativement en cours de chemin. Donc, effectivement, je serais pas étonné que des gens... Puis c'est très malheureux de pas être étonné, d'ailleurs, aussi. Là. Utilisent ces règles-là à leur avantage pécunier et viennent faire chanter des entreprises pour ça. Puis de toute façon, comme on le voit avec les rançons logicielles, ces choses-là, ils n'ont pas beaucoup d'honneur, donc ils sont prêts à faire chanter puis ils vont divulguer de toute façon l'information de toute façon.
Ouais, on en parlait dans les dernières émissions, hein. Ils vont même jusqu'à s'attaquer aux données des enfants dans les écoles. Alors là, les données d'entreprise qui en plus pourront être condamnées, donc on va gagner de l'argent sur ce genre de levier. Oui, ils vont pas se priver, ça c'est clair.
Non, ils s'en balancent. Donc ça va être très intéressant à observer dans les prochains mois, puis surtout au mois de mai pour la France dans lequel l'application se fait. Est-ce que c'est la même application dans l'ensemble de l'Union ou c'est juste chacun a son calendrier de mise en place?
Alors, chacun a eu son calendrier de mise en place, hein, mais pour nous en France en tout cas, là c'est le mois de mai. Et de toute façon, on reviendra dans les prochaines émissions, on en reparlera, on suivra ça, on se fera notre petite chronique 30 secondes sur comment ça va.
Ouais, ben, ça va avoir des effets inévitables. C'est pour ça que je trouvais important qu'on aborde le sujet de façon complète pour qu'on puisse avoir une base, parce que ça va nous affecter et ça va faire partie des sujets qu'on va inévitablement parler pendant au moins les 12 prochains mois et j'imagine dans les années qui s'en viennent.
C'est ça.
Donc c'est bien, mais je te remercie pour ta vulgarisation. Moi, j'ai appris beaucoup à travers ça, puis j'espère que nos auditeurs aussi.
Ben, c'est avec plaisir. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein. Il y a plein de sites qui traitent du sujet. Le plus officiel et le plus efficace. Mais même si on n'est pas français, c'est CNIL.fr qui analyse de haut en bas, de droite à gauche, le règlement général de la protection des données avec des fiches techniques, avec des aides. Voilà. Il faut vraiment pas hésiter à s'y pencher. De toute façon, je pense que malheureusement et heureusement aussi, les entreprises, avant le 25 mai 2018 ont plutôt intérêt même à l'apprendre par cœur.
Probablement, oui. Et sur ce, ben, on va clore. Fait que, merci beaucoup.
Ciao, ciao, et à bientôt.
Et au prochain épisode.
Yeah.